Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, nous revoilà pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes deux acolytes, Margaïde, salut Marga.
Hello.
Et salut Elsa.
Salut, salut.
Dans ce 8e épisode, on va parler de sexisme et de maternité. Nos warriors vont nous raconter leur victoire du fait qu'il faille se battre pour pratiquer un accouchement naturel, des injonctions contradictoires à l'allaitement ou pas, de la grossophobie que subissent beaucoup de femmes dans leur parcours de grossesse, de violences obstétricales, bref, de la difficulté à se faire entendre par les soignants, à faire respecter nos corps et nos choix. Et c'est encore une fois un vaste sujet. On a reçu énormément de témoignages, plus que sur tous les autres thèmes, donc on vous remercie. Et on a lu tous vos textes, malheureusement, comme vous le savez, on est obligé de sélectionner. Mais merci, merci, merci beaucoup à vous pour votre réactivité et pour la confiance que vous nous faites. C'est important aussi de préciser que 2 ou 3, aucune n'a d'enfant. Donc on n'est pas du tout experte, mais vos témoignages nous ont beaucoup appris. Et puisqu'il n'en s'agira pas, je me permets de faire mon intro sur un point important. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit absolument faire des enfants. Nous n'avons pas toutes envie de devenir mère, donc loin, très loin de nous, l'envie de culpabiliser celles qui se sentiront, comme moi, concernées par cette non-envie. On n'est pas non plus obligé, si on tombe enceinte, de mener une grossesse à bien. Si vous nous connaissez, je pense que vous avez compris que nous sommes pour les choix des femmes, tous leurs choix, quels qu'ils soient. On a aussi une pensée pour celles qui souhaitent avoir des enfants mais ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, ainsi que pour celles qui ont malheureusement perdu un enfant. On vous soutient toutes, sans exception. Donc cet épisode parlera de celles qui ont voulu et pu accéder à ce moment de vie, qui bouleverse le corps, l'esprit, le couple et parfois aussi le moral. Elles vont, comme à leur habitude, vous donner la pêche et vous montrer comme il est bon de s'écouter, de se faire confiance, de savoir qu'on est capable de remettre en question ce qu'on attend de nous. Elles sont super douées et déterminées à vous livrer de l'inspiration, à partager avec vous leurs stratégies. Donc il n'y a pas de petites révolutions, ce sont de grandes révolutions individuelles qu'on a le plaisir de vous présenter. Et pour commencer, comme à notre habitude, on vous présente le feedback d'une auditrice, Marga.
Ouais, petite révolution, les feedbacks des auditrices continuent à nous écouter. Et on commence avec Tilly qui nous a écrit sur Facebook et qui nous remercie pour cette super émission, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas nous. Elle a découvert le podcast il y a peu de temps et a donc écouté tous les épisodes. Elle nous dit « Chaque émission me met une patate d'enfer, me motive au taquet et me fait tout simplement un bien fou. Donc un grand merci en lettres capitales à vous. Je vous écoute avec ma fille de 7 semaines dans les bras. Elle ne se laissera jamais marcher sur les pieds. »
Yes!
Une merci. Nouvelle warrior dans ce monde.
Bienvenue. C'est trop bien.
Et ben merci, merci Teddy pour ton message, ça fait plaisir.
Carrément. Alors, on va commencer les témoignages avec celui de Stéphanie. Stéphanie qui est une jeune maman. Après son accouchement, son lait a mis un peu de temps à monter. Et du coup, le personnel de l'hôpital a essayé de la forcer à donner un complément alimentaire à son bébé parce qu'il n'avait pas pris assez de poids.
De mon hospitalisation après mon accouchement, c'est le jour de la sortie, tant attendu. Et donc la périgutrice vient pour peser mon bébé et me dit qu'il a pas pris suffisamment de poids pour me laisser sortir aujourd'hui. La seule condition en fait pour réaliser cette sortie, c'était de lui donner un complément alimentaire sous forme de biberon. Moi, l'allaitement, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, donc je sais que lui donner une tétine au bout du troisième jour, ça peut mettre en péril l'allaitement, ou pas, hein, mais ça peut. Et surtout, ça risque de bien le caler, de l'endormir, et donc de retarder la montée de lait, puisque je pourrais pas le mettre au sein toute la journée. Du coup, je leur explique que j'ai pas envie de lui donner ce complément alimentaire, et que pour moi, c'est juste que ma montée de lait n'a pas eu lieu, puisqu'il faut qu'il reste au sein plus longtemps. Donc là, je leur demande un tire-lait pour potentiellement tirer mon lait et donner le complément alimentaire qui soit mon lait maternel et non pas quelque chose d'artificiel. Ils me disent qu'ils n'ont pas de tire-lait dans un hôpital parisien, un peu surprenant, mais je sens qu'ils veulent me décourager. Du coup, je persiste et puis je persiste dans mes convictions à me dire que si je lui donne mon sein, bah, ça va fonctionner. Donc toute la journée, je reste avec mon bébé au sein à l'hôpital. En fin de journée, ils reviennent pour le repeser. Et là, ils me disent qu'il a pris du poids, que c'est bien. Mais la sage-femme, en fait, refuse de venir me voir parce qu'elle estime que j'ai pas à sortir aujourd'hui. Puis revient me voir en me disant si je vous laisse sortir aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Donc en gros, essaie de me faire culpabiliser sur le fait que normalement, elle devrait pas me laisser sortir, mais que je mets mon bébé en danger. Donc au final, bah, je décide quand même de rester une nuit de plus à l'hôpital puisque j'ai pas envie de mettre mon bébé en danger. Et le lendemain matin, bah, on se rend compte que le bébé a vraiment pris beaucoup de poids, que la montée de lait est super bien mise en place et que j'avais raison, que ce complément alimentaire, c'était juste pour me laisser sortir plus tôt, mais qu'il faut peut-être laisser la nature se faire. Et si ça prend plus de temps, faut pas forcément la forcer. Donc j'étais assez fière d'être restée sur mes positions, parce qu'au final, mon bébé aujourd'hui, il est au sein, il n'y a aucun problème sur mon allaitement. Et j'en suis hyper fière, donc voilà, j'espère que ça inspirera d'autres personnes à rester dans leurs convictions, même dans un lieu hospitalier.
Merci Stéphanie, bravo de pas avoir laissé tomber les choix que tu avais fait déjà avant en fait.
C'était vraiment pas facile, d'autant qu'à l'hôpital, ouais. les soignants en tout cas ont une grosse autorité. Enfin,
bien
déjà,
sûr.
En temps normal, après un accouchement, j'imagine que ça doit être encore plus présent, quoi. Enfin, leur parole, c'est un peu parole d'évangile, quoi.
C'est ça. Et puis en plus, on est très vulnérable après un accouchement, on est fatigué, etc. Enfin, je pense que c'est très facile de lâcher l'affaire et de les laisser prendre des décisions à notre place, parce qu'en fait, on n'est pas en état de résister, quoi. C'est trop, trop fatigant. Et je trouve que c'est fou, en fait, de se rendre compte que quoi qu'on fasse, en fait, on est perdante et on n'aura jamais raison. Si on veut pas allaiter, on va nous dire qu'on est une mauvaise mère. Si on veut allaiter, si ça marche pas tout de suite, alors il faut abandonner, c'est pas raisonnable, c'est dangereux pour le bébé. Et au final, ce qu'on remarque, c'est qu'on laisse pas les femmes faire confiance à leurs ressentis ou faire leurs propres choix, tout simplement, qui sont pas forcément déraisonnables. C'est juste qu'elles voulaient laisser la nature se faire à son rythme, quoi, et qu'il n'y a pas d'urgence. Mais c'est vrai que dans les hôpitaux, il y a vraiment une cadence et un rythme à tenir, et du coup, ils essayent d'accélérer, en fait. C'est ce qui revient souvent dans les témoignages qu'on a pu avoir, c'est que le but, c'est vraiment aller le plus vite possible, pouvoir libérer les lits rapidement, etc., les renvoyer chez elles rapidement. Or, un accouchement, c'est pas comme ça. Enfin, ça peut prendre plus de temps que prévu. On peut pas accélérer toujours les choses, quoi.
C'est vraiment le confort des soignants et l'organisation des établissements qui prime, en fait. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, au moment on préparait l'épisode, la position allongée lors de l'accouchement, c'est une position qui est en fait plus simple pour les médecins, pour les soignants, plus que pour la femme, parce que du coup elle n'est plus aidée par la gravité, qui est censée être quand même notre meilleure pote quand on accouche.
Et puis en plus elle est attachée, les pieds en l'air.
Voilà, super confortable. J'imagine que c'est affreux, je sais pas, j'ai jamais accouché, mais ça, déjà quand je vais chez la gynéco, je déteste cette position, quoi. Et pareil, il y a plein de pays dans lesquels on pratique énormément de césarienne pour pouvoir programmer les naissances, ne plus laisser les choses se faire telles qu'elles sont, c'est-à-dire que potentiellement, il va y avoir 3 accouchements en même temps et des moments où il n'y aura plus d'accouchements. Donc, en fait, tout est fait pour le confort des soignants, des établissements. Et
optimiser,
du coup, le confort et les choix des femmes passent au second, voire au troisième plan.
Et quand on sait les politiques en ce moment de diminution des coûts dans les services public hospitalier, voilà, on se demande un peu où est le confort des patientes, des patients aussi d'ailleurs, peu importe pourquoi on est admis à l'hôpital, enfin, où est... où est l'humain là-dedans, en fait, quoi.
Ouais, c'est complètement déshumanisé. C'est en mode usine à accouchement, quoi.
Voilà. Y compris pour le personnel, hein, j'imagine. Il y a plein d'établissements dans lesquels ils sont en sous-effectif absolu. Ah, donc bah, ça, c'est le stress constant. Sûr, ouais. Donc c'est pas non plus confortable de travailler dans ces conditions-là.
Tout le monde est perdant.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Bon, voilà, donc Stéphanie a dû tenir tête pour allaiter. Et puis il y a aussi, bah, évidemment, celles qui doivent tenir tête pour donner le biberon. Voilà, pour donner le biberon, tu sais, on marche sur la tête. Émilie, c'est vraiment ce qu'elle a vécu. D'autant qu'elle, pour son accouchement et pour sa grossesse, elle a vraiment favorisé un suivi très naturel, proche de la nature de son accouchement. C'était ce qu'elle souhaitait. Mais derrière, par contre, ce qu'elle voulait vraiment, c'était donner le biberon. Parce qu'une fois qu'elle avait accouché, elle se disait, non, moi j'ai envie de retrouver. Enfin voilà, c'était son choix. Elle voulait retrouver son corps, ne pas allaiter. Et évidemment, elle a eu affaire à beaucoup d'hommes, bizarrement.
Elle a eu affaire au patriarcat.
Voilà, qui lui ont posé la question. Alors, tu le nourris au sein ? Et voilà comment elle a réagi.
Et surtout, j'ai constaté que ça venait beaucoup de garçons, de papas. Alors, soit c'était « Ah ouais, parce que tu veux recommencer à boire. Enfin, » En gros, tu veux sacrifier la santé de ton enfant au profit de ton alcoolisme. C'était un petit peu ça. Donc, ce à quoi je répondais très souvent « Oui, tu comprends. » 9 mois de sevrage, il vaut mieux que je puisse recommencer à picoler parce que sinon ça va pas aller, je suis en manque. Et des fois j'ai des doutes sur le fait qu'ils aient bien perçu l'ironie de cette phrase. Et souvent donc j'avais aussi cette réflexion de oui mais tu sais, moi j'ai eu des enfants, ils ont été allaités, c'est bien mieux pour eux. En l'occurrence c'était essentiellement des garçons, des hommes. Je leur répondais ah oui alors c'est passé comment, t'as pas eu de problème de crevasse, l'allaitement s'est bien passé, t'as pu donner le sein. Comme les mecs qui te font des réflexions sur la façon dont tu devrais avoir ou non des enfants. T'as envie de leur dire, écoute, va t'acheter un utérus et puis on en parlera. On en reparlera une fois que ça sera à toi de le porter dans ton ventre, cet enfant. Et puis ne parle pas de ce dont tu n'as pas conscience. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas.
Et ouais, le
bien envoyé.
Voilà. Mansplaining, donc les mecs qui expliquent la vie aux femmes dans tous les sujets, et notamment voilà, sur la maternité, évidemment.
Bien sûr.
Évidemment, on les retrouve. Et ça m'énerve, quoi. Enfin, c'est vraiment. La réflexion, en fait, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Enfin,
genre, a priori, ouais.
A priori, enfin, normalement. Donc, c'est une évidence qu'il faut rappeler, visiblement, à chaque fois. Non, tu me connais pas, tu ne connais pas mes choix, tu ne connais pas ma vie. Donc, voilà, merci les gars. Mais franchement, on pourra se passer de votre avis. Et surtout que, enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est genre, ils donnent des conseils, mais genre, comme si une femme enceinte et qui fait des choix sur la façon dont elle veut accueillir son enfant, comme si elle ne s'était pas renseignée, en fait.
Bien sûr.
Comme si elle n'avait pas déjà pesé le pour et le contre de chaque option.
Elle n'est pas capable de savoir ce qui est le mieux. Marga, tu devrais le savoir depuis le temps.
Voilà, il y a toujours ce truc de les femmes, ces écervelées,
ces enfants.
Bêtes, voilà, ouais. Ces enfants, il faut vraiment leur dire quoi faire, quoi. Surtout, voilà.
Et c'est vrai que c'est le cas même sur la question d'avoir ou pas avoir des enfants. Hein. Moi, c'était un homme qui m'avait dit, t'as pas peur de finir seule si tu fais pas d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des enfants pour ne pas finir seule.
Oui, c'est super.
On en parle de l'égoïsme de cet acte, c'est énorme. Donc bon, c'est effectivement pas d'utérus, pas d'avis. C'est pas moi qui l'ai inventé celui-là.
Ok.
Bien, on passe à notre warrior suivante.
Ouais.
Alors, on va vous présenter Louise. Donc, Louise, pendant sa grossesse, elle était suivie par une sage-femme libérale. Et chaque mois, lors de ses rendez-vous, venait le moment de la peser. Et ce moment est vite devenu super désagréable parce qu'elle a vite dépassé la prise de poids moyenne. En effet, selon cette sage-femme, on est censé, idéalement, prendre 1 kg par mois, soit 9 kg au terme de la grossesse. 12 max. Je sais pas d'où elle sort ce chiffre, parce que moi, mes copines qui ont des enfants, elles l'ont pour la plupart absolument explosé. Mais bref, Louise nous raconte sa gêne et sa très jolie victoire, on l'écoute.
C'est devenu le rituel de la peser tous les mois, ce qu'on se voyait à chaque mois de grossesse. Et je me faisais vraiment disputer, parce que je dépassais cette prise de poids mensuelle, parce que j'avais tout le temps faim, donc je mangeais beaucoup. Et donc, j'appréhendais beaucoup ces rendez-vous, parce que c'était vraiment le point noir de ma grossesse. On me reprochait des choses et je rentrais pas dans les cases. Le rendez-vous du 5e mois, j'avais pris 9 kilos. Elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais, très froide. Elle m'a dit « Bon, bah, madame, comment on fait maintenant? Vous avez pris vos 9 kilos de grossesse, vous pouvez plus en prendre. » Et j'ai été... Vraiment interdite, je pouvais plus parler, j'avais une boule dans la gorge, je me sentais gâchée dans ma grossesse, je pouvais rien faire d'autre. Et le problématique par rapport à ça, c'était que son argument reposait pas sur la santé du bébé ou des arguments médicaux pour ma santé à moi. La prise de poids, son argument, c'était c'est ça trop que vous allez avoir du mal à perdre après votre accouchement. Et c'est ça qui me mettait en rage et qui faisait que je suivais pas ses conseils au final. Le recalage, pour moi, il est intervenu quelques mois plus tard. Il a été vraiment transcendant. En dépit de tous ces kilos en trop, j'ai accouché toute seule, sans péridurale, debout. Et pour moi, c'était une vraie victoire et c'était la preuve que mon corps n'était pas juste cette grosse chose inutile qui avait enflé pendant 9 mois, mais était juste prêt pour faire ce dont il avait besoin, c'est-à-dire faire naître mon fils. Et donc non, je n'ai plus honte de mon corps, j'en suis même très fière. Pourtant, Dieu sait qu'il est un petit peu mou, un petit peu asymétrique depuis la naissance de mon fils. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les prochaines grossesses, s'il y en a, je refuserai la pesée lors de mes examens médicaux.
Oui. Bravo.
Mais j'ai été sciée quand elle nous dit que l'argument de la sage-femme, c'est le fait qu'elle va galérer à perdre ses kilos après l'accouchement. Mais déjà, de quoi je me mêle, en fait?
Ouais.
Enfin, à quel moment c'est ton problème? C'est le sien. Et encore, si c'en est un, ça, c'est pas forcé que c'en soit. Donc bon, la grossophobie assumée de l'aide-soignante est quand même incroyable. Et du coup, ça fait écho au vécu de nombreuses femmes grosses. Et là, je parle pas de celles qui prennent juste du poids pendant la grossesse. Et du coup, en creusant, j'ai découvert le hashtag Fat Fertility Matters. Elsa, t'as un meilleur accent que moi.
Fat Fertility Matters.
Yeah.
Oh yeah.
Ça sonne vachement mieux d'un coup. Donc ça veut dire la fécondité des femmes grosses compte.
Mm-hmm.
Ça a été lancé par une Anglaise, Nicola Salmon. Elle est elle-même grosse, elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc en résumé, le corps médical lui affirmait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, et pourtant si, elle y est arrivée. Et depuis, elle se bat pour que les personnes grosses reçoivent le même suivi et soutien que les autres, pour qu'on arrête de les culpabiliser en permanence, voire d'essayer de les dissuader de faire des enfants. Donc elle le rappelle, oui, il peut parfois y avoir des risques à être enceinte et en surpoids, mais pas toujours. Et ça ne justifie en aucun cas cette inégalité dans l'accès aux soins médicaux au suivi. Ça ne justifie en rien qu'on stigmatise et qu'on culpabilise ces femmes. Et comme toujours, on les infantilise au passage. On présuppose sur les capacités de leur corps, sans même se poser la question de ce qu'elles en pensent, elles. Du coup, bravo à Louise pour cette très jolie victoire, et merci à toi d'ailleurs d'avoir soulevé ce sujet ô combien important et politique. Et du coup, pour creuser le sujet, je vous recommande le travail du collectif Gras Politique, qui milite entre autres contre la grossophobie médicale, qui est une violence super répandue et qui doit être dénoncée. Et je recommande aussi, au passage, le travail de la copine Olga Wolfson, qui a écrit une tribune pour France Info à ce sujet. Je vous mets, comme toujours, le lien dans la description de l'épisode.
Yes. C'est marrant, on dirait que les médecins, ils sont de mèche avec les magazines féminins qui nous disent qu'on doit avoir un corps prêt pour la plage.
Exactement.
Et genre, si c'est pas une question de santé, garde tes commentaires pour toi, quoi.
Ouais.
Du coup, là, on va parler d'une autre warrior, Caroline, qui a aussi vécu pas mal de grossophobie pendant ses grossesses et de violences obstétricales. Donc, elle a 2 enfants. Et elle nous a raconté notamment un épisode pendant lequel, lors de sa première échographie, mais de la 2e grossesse, donc la première fois qu'elle allait voir son bébé bouger, etc., la gynéco a commencé à la faire culpabiliser sur son poids, à lui dire qu'il fallait qu'elle fasse un régime pendant la grossesse.
Non mais allô ?
Les régimes, c'est jamais voilà. Bon, mais alors pendant une grossesse, c'est carrément toxique de dire ça. Enfin,
qu'elle allait avoir un enfant obèse, voilà. Et Caroline ne s'est pas du tout laissée démonter, parce qu'en fait, comme elle avait vécu pas mal de violences pour sa première grossesse, pour la deuxième, elle s'était dit, alors là, cette fois-ci, c'est mort. Je laisse rien passer. Du coup, elle a fait remarquer à la gynéco que c'était inacceptable de faire ce type de remarque, qu'elle en avait marre. Et en fait, pour se venger, elle n'est pas allée au prochain rendez-vous sans avoir annulé, en fait.
Oui.
Donc voilà, donc
je te plante.
Elle l'a planté. Puis est venu le jour de l'accouchement, donc toujours de la 2e grossesse, où globalement tout s'est bien passé. Le personnel était assez respectueux de son corps et de ses choix, sauf l'anesthésiste.
J'étais en salle d'accouchement. Il y avait la sage-femme et l'anesthésiste. J'étais en plein travail. La péridurale était posée déjà depuis peut-être 1 heure ou 2. Tout se passait très bien, il n'y a pas de problème. La sage-femme me propose de rompre la poche des os pour pouvoir accélérer un petit peu le travail. Mais je voulais attendre. J'avais le temps, il n'y avait pas d'urgence, donc pourquoi pas essayer de bouger un peu et d'essayer de faire en sorte que la poche des os se rompe seule. Il n'y avait vraiment pas de souci pour la sage-femme. Elle était très compréhensive. Elle m'a dit très bien, on va attendre un petit peu. Mais l'anesthésiste qui était à côté, apparemment, a entendu. Et apparemment, elle avait un souci avec ça. Elle regarde la sage-femme et elle lui dit « Mais comment ça, vous lui avez pas percé la poche des os ?» Mais vous lui laissez le choix ? Alors que j'étais vraiment juste à côté, quoi. J'ai vu la sage-femme lever les yeux au ciel et j'ai répondu à l'anesthésiste « Oui, oui, j'ai encore le choix, parce que c'est encore mon corps, en fait. » Elle n'a pas répondu, elle est partie et je ne l'ai pas revue. Après, c'est un autre anesthésiste qui a pris le relais. Et tant mieux, d'ailleurs. Je crois que c'était la seule petite phrase pendant cet accouchement qui vraiment était de trop. Je me demande si, finalement, les accouchements, sans aucun... aucun jugement comme ça, sans aucune tentative de contrôle existe. Je crois pas. Enfin voilà, j'aurais aimé avoir plus de moments warrior comme celui-ci, surtout lors de mon premier accouchement. C'est assez dur face au corps médical finalement de dire non, de dire stop, de dire attendez, là je veux que vous me disiez exactement ce que vous voulez faire. Le corps médical, le médecin, la sage-femme, les soignants, ça représente une certaine autorité. C'est la personne qui sait, généralement. C'est pas toujours le cas. Avec ce que j'ai vécu, je lutte aujourd'hui dans une association contre les violences obstétricales et gynécologiques. Là, vraiment, mon moment warrior, c'est d'aider les femmes qui vivent ça, des femmes qui sont victimes. C'est mon moment warrior, c'est mon pansement. Voilà, c'est l'association IRASF et... au quotidien, vraiment, ça change ma vie. Et j'espère aussi aider un maximum les femmes qui ont vécu ces choses-là aussi, pour peut-être sensibiliser un maximum de personnes et éradiquer ça. Parce que être violentée au moment où on donne la vie, je crois qu'il n'y a pas pire vraiment comme moment.
Waouh!
On a collé les larmes aux yeux.
Ouais, merci Caroline. Je crois qu'on peut terminer cette émission. Elle a vraiment tout dit.
Elle a tout dit. C'est très important de retenir qu'il ne faut pas laisser les médecins faire des choses sans votre consentement. Parce que comme elle dit, ça reste encore votre corps en fait. Et vous avez le droit de faire des choix, encore une fois. Si vous ne voulez pas accélérer l'accouchement, vous n'êtes pas obligé d'accélérer un accouchement. Et la réaction de l'anesthésiste était juste hallucinante. Et on dit assez long sur les habitudes des soignants dans ce genre de contexte, quoi. Alors, juste pour parler rapidement de l'association, du coup, qu'elle a créée. Donc, en gros, il propose plusieurs choses. Il y a un groupe de victimes sur Facebook où il est possible de parler librement et d'être enfin entendu, notamment par rapport aux violences obstétricales. Il y a aussi du soutien et orientation par mail, téléphone ou Skype. Il y a un formulaire de mise en relation des victimes et pour dénoncer des actes. Il diffuse aussi des documents pour sensibiliser le grand public et les soignants. Donc, voilà, toutes les infos sont sur leur site. irasf.org.
On le mettra dans les dans la description de l'épisode évidemment.
Et après elle nous a aussi précisé par mail que pour les victimes, il existe plusieurs voies de recours en fonction des faits, mais surtout en fonction de ce qu'elles veulent. Donc vous pouvez par exemple demander un rendez-vous avec le médiateur de l'hôpital pour avoir des explications. Vous pouvez porter plainte auprès des ordres médecins ou sage-femme pour obtenir des sanctions disciplinaires. Vous pouvez porter plainte au civil pour non-respect de la loi Kouchner et obtenir des indemnités.
Ouais. Petite précision peut-être pour la loi Kouchner, en fait c'est une loi qui date de 2002 et qui instaure en fait le consentement du patient dans tous les actes, tous les actes médicaux. Donc,
ils sont au courant qu'elle existe cette loi ?
Je crois pas, non.
Malheureusement, elle est souvent, elle n'est pas souvent respectée. Et autre chose, c'est que souvent, en fait, le corps médical fait corps, justement, et que l'ordre des médecins est souvent très protecteur de ces médecins. Voilà, c'est pas bien de critiquer l'autorité médicale.
Ouh là là.
Ouh là là. Et après, il y a aussi le pénal pour des actes de violence, de viol, de mutilation, de torture, par exemple les violences physiques, toute pénétration sans consentement, les épisiotomies, révision utérine et césarienne à vif.
Point du mari aussi.
Voilà, donc que des choses très réjouissantes. Donc voilà, sachez quels sont vos droits. Sachez qu'il y a des lois qui existent. Alors dans l'idéal, vaut mieux ne pas arriver au niveau du tribunal. Mais si jamais on n'a pas respecté vos droits, voilà les recours que vous pouvez faire.
Mais c'est vrai ce qu'elle dit sur le fait que est-ce qu'un accouchement à l'hôpital qui se passe bien de A à Z, est-ce que ça existe vraiment
sans tentative de contrôle et sans violence.
Et quand on parle aux copines, même celles dont l'accouchement s'est plutôt bien passé, il y a toujours eu un moment. Alors moi, c'est une copine qui m'a raconté ça l'autre jour. En fait, elle était sur la table d'accouchement, donc évidemment le sexe a l'air, le moment très agréable. Et là, le gynécologue rentre et sans même la regarder, sans lui dire bonjour, ni rien. rien. Bon alors, il se passe quoi ici, machin ? Et la sage-femme dit bon, bah non, tout se passe bien. Et il part, sans lui adresser la parole. Elle me dit, j'ai vraiment eu l'impression d'être invisible. Et donc du coup, elle regarde la sage-femme et elle lui dit, mais du coup, c'était quoi ça ? Enfin, en vrai quoi ? Enfin, est-ce que je suis juste un tas de viande quoi ? La sage-femme lui dit, non, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte de pas en avoir besoin. Et du coup, elle m'a raconté comment s'est passé son accouchement. Du coup, après, bon, c'est plutôt sympa. Elles ont mis de la musique, elles ont commencé à discuter, machin, et tout s'est passé de façon très très bien. Mais il y a vraiment ce côté autorité médicale qui date en fait de très longtemps. On peut peut-être remonter même à la chasse aux sorcières finalement, quand on a interdit aux femmes considérées comme sorcières la pratique des soins et de la médecine, pour la mettre entre les mains de ceux qui avaient le droit d'exercer la médecine, les médecins, un métier qui évidemment était interdit aux femmes.
Oh, mais comme c'est étonnant.
Voilà. Et en fait, l'obstétrique est héritière en fait, indirectement de cette chasse aux sorcières.
Bien sûr, la gynécologie, etc. Toutes ces disciplines qui concernent majoritairement des femmes équipées d'un utérus sont majoritairement trustées par des hommes équipés d'un pénis. Tout va bien, c'est tout à fait logique.
C'est ça, c'est une science d'hommes pour les femmes. C'est ça. On marche sur la tête un peu, comme si on savait. En fait, c'est ça, comme si on n'avait pas conscience et si on pouvait pas comprendre nous-mêmes notre corps, quoi, et ce qui se passe dans notre corps. C'est assez fou.
Mais ouais, mais de toute façon, dès qu'on fait des choses bien et nobles, il faut qu'ils se les réapproprient. Hein. C'est un peu ça. La cuisine, tant que c'est à la maison, ça va. Mais dès que ça devient de l'art, c'est masculin, etc., etc. Bref, je vais pas me lancer dans mon quart d'heure misandre, sinon vous savez qu'après je suis partie. Bah, du coup, on passe à Laure. Donc, Laure et Kat, elles sont en couple et elles voulaient toutes les deux avoir un enfant. Elles ont donc eu recours à la PMA, la procréation médicalement assistée. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je fais un petit point très rapide. C'est l'ensemble des techniques qui permettent la fécondation, mais assistée médicalement. Donc, ça peut être une fécondation in vitro, une artificielle ou une injection de spermatozoïdes dans l'ovule. Donc en gros, le principe, c'est de pouvoir faire un enfant sans avoir besoin d'un homme. On les écoute nous raconter leur expérience.
C'était interdit en France, donc on a d'abord activé le réseau et la solidarité chez les lesbiennes qui nous ont bien conseillées. Puis on s'est dit qu'on allait aller en Belgique parce qu'on nous avait conseillé une chouette clinique à Gand. La suite des événements s'est enchaînée de façon méthodique, simple et puis efficace. On est monté une première fois et puis pouf, ça a marché. Notre premier enfant, un petit garçon est né, Noé. Au bout de 3 ans, on s'est dit, oh bah tiens, ce serait chouette qu'on s'agrandisse encore un peu plus. Donc on a donné naissance à une petite fille, Mila. Voilà, on a dû se marier pour que Kat puisse adopter les enfants et que ce soit vraiment les siens. Donc on a subi un échec de la part du TGI de Aix-en-Provence qui notre demande a été retoquée et en fait après on a déménagé et en fait on dépendait du tribunal de Marseille et puis là c'est passé sans souci. Évidemment tout ça a un coût. On a pas mal d'amis qui sont dans cette démarche là pour qui c'est plus ou moins facile, mais en tout cas nous ce qu'on voulait dire aujourd'hui c'est que c'était possible, qu'il y avait quand même des gens bienveillants autour de tout ça et on espère que dans quelques années tout sera ne sera qu'un mauvais souvenir par rapport aux manifs du mariage pour tous. En tout cas, nous, on est là pour faire avancer le Schmilblick, comme on dit.
Ouais, faisons avancer le Schmilblick comme
tu dis.
Il y a du boulot, ouais, encore.
Ouais, il y a grave de boulot. Alors, l'info mignonnance, c'est que Noé étant le premier, il a eu le privilège de nommer ses mamans. Donc, il appelle Laure maman et Kat ma. Donc,
c'est mignon.
C'était l'instant mignon. Donc on a tenu à diffuser ce témoignage parce que c'est souvent un véritable parcours du combattant pour les couples de femmes ou pour les femmes célibataires qui souhaitent faire un enfant, et particulièrement dans le contexte français. Donc je vais donc en profiter pour faire un petit point PMA. Et sur le sujet, celle qui en parle le mieux, c'est Alice Coffin. Donc Alice, c'est la cofondatrice de l'AJL, donc l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Elle est super calée sur le sujet, donc je suis allé voir un peu les principales infos qu'elle évoque dans ses interviews. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'en France, la PMA n'est autorisée que pour les couples hétérosexuels. Les couples lesbiens, les femmes célibataires, elles, on leur refuse ce droit. Alors que c'est parfaitement légal en Belgique, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas et dans 21 autres pays. Donc en France, on fait traîner le débat depuis des années, alors que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et alors que l'opinion publique est très majoritairement favorable à l'ouverture de ce droit. Donc en gros, la manif pour tous, pour ne pas les nommer, est encore une fois en train de nous rouler dessus, avec l'accord de nos politiques, c'est sympa comme tout. Et bref, quand on est lesbienne, gay, trans dans ce pays, bah, faire un enfant, c'est super compliqué, et souvent, on est obligé de partir à l'étranger pour y arriver. Sans parler des galères ensuite pour faire reconnaître l'adoption par le ou la conjointe. Sur le sujet, du coup, je vous recommande le film d'Émilie Jouvet qui s'appelle Aria, A-R-I-A. Elle était elle-même enceinte de sa fille, enceinte toute seule de sa fille, quand elle l'a tournée. Et c'est un portrait croisé. Donc elle et les protagonistes nous parlent de PMA, de parentalité, d'homoparentalité, de non-désir d'enfant, de colère, d'amour, d'espoir. Bref, ne loupez pas ce film, Aria d'Émilie Jouvet.
Ben, on va regarder. Cool. Ouais. Et bon, pour préciser quand même que censément la loi doit passer au Parlement normalement cet été, si tout va bien. Donc voilà, il va falloir être très vigilante.
On encourage nos élus à enfin se bouger définitivement et qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose.
On vous regarde.
Parce qu'en plus, pendant que ce débat traîne, on constate réellement des augmentations des violences lesbophobes, notamment. Mm-hmm. Donc c'est une vraie problématique, puisque du coup, ça cristallise plein de tensions et ça encourage les violences homophobes et lesbophobes. Donc il est grand temps qu'on passe à autre chose, qu'on valide ça une fois pour toutes, que ça devienne, que ce soit admis, et puis qu'on avance, quoi.
Et puis surtout, mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens, en fait, quoi.
Enfin, absolument rien.
Un maman, une papa.
Bah pourquoi
sinon,
pas.
Bah ouais. C'est pas possible.
Non, mais enfin, franchement, quoi. C'est quoi le problème, quoi. Si elle veut faire un enfant, qu'elle fasse un enfant, quoi. Enfin, même.
C'est toujours le contrôle des corps des femmes, hein, ce qu'elles en font. Et là, on parle quand même de se passer d'homme pour faire des enfants. Donc, vous imaginez la résonance que ça.
C'est vraiment subversif.
C'est voilà.
Ah, mais peut-être qu'on pourrait ne servir à rien. Au secours.
C'est ça.
Mais vous êtes déjà inutile. Je sais pas.
On fait semblant qu'on vous aime bien. Mais...
C'était l'instant misandre.
Et là, Irvine est en train de se décomposer.
Voilà, Irvine qui réalise l'épisode est parti. Reviens. Non, il revient. Ouais. Allez, on rigole, mais maintenant il est temps d'ouvrir une page accouchement physiologique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bah moi-même, avant de préparer l'épisode, en fait, j'en avais jamais entendu parler. C'est un monde qui s'est ouvert devant moi. Donc l'accouchement physiologique, en fait, c'est tout simple. Certaines l'appellent accouchement naturel. C'est tout simplement au moment de l'accouchement de laisser faire son corps et d'accoucher sans aide médicale ou sans intervention médicale, que ce soit péridurale, épisiotomie ou ventouse. Alors ça, c'est un truc aussi horrible.
Je ne veux même pas savoir à quoi ça sert, là.
C'est voilà, bref, bon, pas de détails. Enfin bref, sans toutes ces...
Je suis en train de me vacciner contre le fait d'avoir des enfants, mais définitivement...
Je pense que tu ne seras pas la seule.
Donc on va tout simplement faire confiance à son corps, mm-hmm. parce que voilà, le corps sait comment faire pour accoucher. Ouais. Certains, dans certaines lectures que j'ai pu avoir, comparent en fait l'accouchement au fait de vomir. En fait, bon, c'est encore très ragoûtant, mais quand on a des nausées, quand on vomit, mm-hmm. en fait, on laisse faire notre corps parce qu'il sait en fait comment expulser en fait ce truc là dans l'estomac qui nous rend malade. Il suffit juste de laisser faire, juste de se mettre en position devant la cuvette des chiottes pour attendre que ça passe, ou dans un fossé.
Malheureusement, un enfant, c'est un peu moins liquide, mais faudrait qu'on arrive à les transformer pour que ça soit plus facile.
Mais voilà, donc ça part du principe que le corps sait comment faire et que les contractions, en fait, finalement, sont là pour faire sortir l'enfant.
C'est bien fait,
la
nature, quand même.
Et que donc, il faut laisser faire, mm-hmm. mais il faut aussi se préparer, évidemment. Ouais. On le disait tout à l'heure, hein, c'est comme se préparer un marathon, en fait.
De l'entraînement, de l'échauffement, une préparation psychologique.
Ouais. Savoir comment ça se passe, et aussi parce que, c'est, mine de rien, c'est douloureux.
Hein, là, c'est Warrior Terminator, hein, si tu fais ça.
Et donc, pour ça, il y a un métier vraiment essentiel, et je tenais vraiment à mettre un peu en avant ce métier dans le podcast, c'est le métier de sage-femme. Mmh. Donc voilà, une copine m'a parlé de Odile, qui est une sage-femme marseillaise très connue dans le milieu de l'accouchement physiologique, et en fait je me suis rendu compte que toutes mes copines quasiment connaissaient Odile. Okay. C'est une star, Odile Tagawa. Donc je l'ai rencontrée dans son cabinet à Marseille, dans le quartier de la Plaine. Bon, je vous fais son CV rapido à Odile, parce que c'est une sacrée warrior. Alors dans les années 80, quand elle a décidé d'être sage-femme, elle a été dégoûtée par ce qui se faisait dans les hôpitaux, des femmes attachées aux tables de travail, des épisiotomies systématiques. Alors même si elle le répète, hein, elle est très très attachée au service public, hein, c'est vraiment une militante, Odile. Elle s'est dit, la seule façon pour moi de faire mon travail vraiment comme je l'entends, c'est-à-dire accompagner la grossesse des femmes globalement jusqu'à l'accouchement, la seule solution, c'était d'exercer en libéral. Donc en 1988, quand elle s'est mise à son compte, elles étaient, alors tenez-vous bien, combien elles étaient de sages-femmes?
100 000.
Elles étaient 20.
D'accord.
Elles étaient 20 sages-femmes libérale en 1988 en France, et c'était la seule dans les Bouches-du-Rhône. Donc imaginez comment elles étaient vues avec mépris, évidemment, par
les sorcières.
Voilà, par les gynécos, les obstétriciens. Et donc, elle a commencé à exercer son métier, et au fur et à mesure des années, ça s'est quand même de plus en plus démocratisé, en fait, l'accès aux sages-femmes libérales. Donc elle a trouvé des collègues à Marseille et à côté, et elle a créé en fait la Casa de Naissance, qui est une salle d'accouchement physiologique à l'hôpital d'Aubagne, où les femmes peuvent accoucher sans aide médicale, cool. Accompagnées vraiment globalement par une équipe de sages-femmes. Pourtant, comme par hasard, ce métier qui est quand même assez indispensable, et en plus on a tous eu affaire à une sage-femme, quasiment tous, presque tous, puisqu'on est né un jour, donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait une sage-femme qui se soit occupée de nous. C'est un métier totalement dévalorisé, je sais pas, peut-être parce que c'est un métier de femme, peut-être. Voilà, enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé, donc je vous laisse écouter quand même Odile.
Moi, ce que je veux questionner, quitte à choquer, c'est pourquoi on hypervalorise, par exemple dans le sport, la puissance, la capacité à endurer du champion, et pourquoi on invalide d'emblée la femme, donc sa capacité à vivre quelque chose qui se passe dans son corps et qui peut être parfois une épreuve trop dure. Et c'est pour ça que c'est magnifique qu'il y ait ces aides médicales, mais parfois qui peut être l'occasion d'un temps vraiment initiatique, d'un temps de découverte de soi. Combien de femmes nous disent après, ça a été long, ça a été dur, mais putain, comment je me sens forte, j'ai découvert une puissance en moi que je ne soupçonnais pas. Ou des femmes qui peuvent dire, j'avais peur de moi, j'avais peur de devenir folle. Et là, j'ai crié, j'ai hurlé, et en fait, je suis là. Et ça va me rester toute ma vie. Et c'est ça qui donne le sens pour nous de ce travail qui est quand même très dur. Enfin, je veux dire, on est payé des cacahuètes, tout le monde rigolerait à voir ce qu'on gagne, alors quand même, on a la responsabilité d'une femme, d'un bébé dans les mains. C'est pas que moi, c'est mes collègues qui sont dans la même aventure, les collègues en France dans la même aventure. On a ça vissé au corps, cette conscience qu'il y a cette puissance au cœur des femmes. Leur permettre de vivre ça, c'est fondateur d'une puissance, de retrouver une puissance au fond de soi qui va donner la force pour d'autres combats après, quoi.
Super Odile.
Merci Odile.
Ça me donne envie de la rencontrer, elle a l'air super cool.
Je vous donnerai son adresse.
Yes. On va devenir fans, nous aussi.
Alors, juste un petit mot quand même sur les salles d'accouchement physiologique ou les maisons de naissance. C'est quelque chose qui existe très très peu en France, en fait. On n'a pas vraiment beaucoup le choix de comment on veut accoucher, en fait, encore aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui en France d'accoucher en dehors d'une maternité. En fait, tout simplement, il y a plusieurs cas. C'est que ce n'est pas autorisé, en fait. Il y a beaucoup de pays où on met en place des maisons de naissance indépendante, où on peut accoucher sans médecin. En France, c'est une expérimentation qui n'existe que depuis 2014, et je crois qu'il y a une dizaine d'endroits en France. Et l'autre solution, ça pourrait être d'accoucher à la maison. Quand il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a aucune contre-indication à accoucher chez soi. En fait, il y a 90% des grossesses qui se passent bien, avec des jeunes femmes en bonne santé. Et du coup, là, il n'y a vraiment aucune... C'est possible, en tout cas. Si on a envie de vivre cette expérience, c'est possible. D'ailleurs, en Angleterre, au Royaume-Uni, ça peut être conseillé. C'est une recommandation qui est faite à certaines femmes. Ça peut... En passant, ça permet aussi d'économiser. Tout est mêlé, hein. Mais bon, disons qu'en tout cas, il y a pas de risque. Et c'est aussi que les sages-femmes, si elles veulent pratiquer des accouchements à domicile, elles doivent payer une assurance qui coûte 25 000 euros. Par comparaison, cette même assurance en Belgique coûte 1 000 euros.
Bah oui.
Mais la France en est tellement différente de la Belgique, c'est pas possible de faire une assurance à 1 000 euros. Et en fait, c'est le prix que payent également les obstétriciens. Sauf que les obstétriciens, déjà, ils ont accès à une aide de l'État pour payer cette assurance. Et en plus, ils gagnent beaucoup plus qu'une sage-femme. Donc en France, c'est organisé. En fait, le fait qu'on n'ait pas le choix dans la façon dont on veut accoucher, en fait, c'est organisé par l'institution. Et c'est un combat qui a été un peu délaissé par les féministes. C'est vraiment pas un combat dont on s'est emparé. Je propose qu'on s'en empare maintenant, un enfant si je veux, quand je veux et avec qui je veux aussi. Alors ça, c'est Marie-Hélène Lahaye qui le dit dans son blog Marie accouche là, que je vous invite à aller lire. Elle dit aussi, un enfant comme je veux. Mmh. Et c'est un combat, je pense, qu'on pourrait commencer à avoir.
Bah, go.
Allez, c'est parti.
Et bah, pour continuer sur cette lancée, on va écouter le témoignage d'Ariane qui, elle, a accouché de façon physiologique 2 fois. Du coup, lors de sa première grossesse, en fait, elle a découvert un monde, donc le monde de l'accouchement physiologique. Elle a découvert que ça pouvait être un moment d'épanouissement et qu'il était possible de bien le vivre. Donc ça peut paraître incroyable, mais écoutez-la, elle va vous expliquer.
J'ai eu envie de vous raconter un bout de mon histoire parce que dans ce podcast, on parle de victoire de femme, de puissance de femme. Et moi, c'est tout ce que j'ai découvert à travers la maternité, justement. Avant d'être enceinte pour la première fois, l'accouchement, j'en avais une vision un peu classique, on va dire. J'ai été nourrie à la fois par tous les récits d'accouchement que j'avais pu entendre autour de moi. Et souvent, les femmes, quand elles racontent leur accouchement, pour beaucoup, elles parlent de ce qui a été difficile. Et en même temps, j'étais aussi nourrie par la culture populaire, en fait, en quelque sorte. Et donc l'image que j'avais, c'était vraiment cette femme allongée sur le dos, en position gynécologique, les pieds dans les étriers, le visage tout rouge. Poussez, madame, poussez. Et voilà, on la voit, qui donne toute son énergie, mais ça semble plutôt difficile et assez désagréable, en fait. Tout de suite, là, je me suis dit, bon, il faut que je m'enseigne, il faut que je m'informe, parce que, à mon avis, il y a moyen de trouver une autre façon de faire. Et plus je me renseignais, plus je découvrais comment ça marche, plus ça me révoltait en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est carrément le secret le mieux gardé du patriarcat. Le fait que l'accouchement n'est pas un moment de douleur, ou en tout cas ce n'est pas un moment de souffrance, mais c'est un moment de puissance. Et puis j'ai accouché pour la première fois, et j'étais curieuse en fait. Curieuse de voir comment j'allais réagir, comment j'allais m'adapter à la douleur, curieuse de voir si je suivais mon corps, si je suivais mon bébé, qu'est-ce qui allait se passer. Et ça a été un moment effectivement incroyable, pendant lequel j'ai vraiment eu cette sensation de renaître à moi-même en même temps que ma fille naissait. J'ai découvert que j'étais capable de tout. Et ça, ça m'a donné une force pour la suite de ma vie, une confiance. Ça a été tellement fort que j'ai vraiment eu très envie de le dire, de partager ça. Et comme mon métier, c'est de faire des films, je suis allée filmer une femme en train d'accoucher. Et quand on voit une femme accoucher, c'est extrêmement fort parce que d'abord, on accouche avec elle, on ressent comme les contractions dans son ventre tellement c'est puissant. Et puis, on ne peut qu'admirer toute l'intelligence, toute la puissance de ce corps, la façon dont elle s'abandonne à ce qu'elle vit, sa vulnérabilité, son intuition. Ensuite, j'ai été à nouveau enceinte de mon deuxième enfant et j'ai accouché une deuxième fois. Et de la même façon que la première fois, j'ai accouché à l'hôpital, mais de façon complètement non médicalisée, 100% physiologique, c'est-à-dire sans péridurale, mais aussi dans la position que je souhaitais, sans me soucier du temps, en mangeant, en buvant, en dansant, en chantant. Je n'ai quasiment, à aucun moment, eu peur ou mal. Au contraire, on peut vraiment le vivre dans la joie pure. Moi, pendant cet accouchement, je riais. J'étais hilar. J'étais complètement hilar. Alors voilà, moi, ma victoire, ça serait ça. Ça serait d'être passée de l'indifférence et de la peur d'accoucher à la joie, tout simplement. La joie d'être une femme, en fait, et de pouvoir vivre ça.
Waouh!
Je vous avais dit, c'est surprenant. Enfin, si on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de récit, ça paraît. Enfin, on a du mal à y croire, quoi, parce que on nous a tellement dit que c'était horrible, etc. Que voilà. Et je trouve que c'est assez révolutionnaire, en fait, d'arriver à se réapproprier la maternité comme ça, et notamment l'accouchement, hein, et de renverser l'espèce de malédiction qu'il y a autour de ça, où on se dit ah bah tu vas souffrir, etc. Parce qu'en tant que femme, enfin, je trouve qu'on passe sa vie à avoir un peu peur de ça, enfin, à se dire que ça va être vraiment un mauvais moment à passer.
Oui.
Enfin, même quand j'avais 8 ans, j'ai l'impression que je me disais, putain, t'imagines si t'accouches un jour, oh là là, truc de ouf, comment on va faire et tout. Et toute la vie, c'est ça, quoi. On se dit tout le temps, on y pense, quoi. Une fois de temps en temps, on y pense, on se dit, non, mais c'est horrible, comment on va faire. Ouais. Et voilà, que c'est un moment qu'on va subir, dont on va mettre très longtemps à se remettre, etc. Et voilà, en tout cas, bah, du coup, Ariane, moi, elle me redonne espoir parce que, à travers des discussions avec elle, j'ai découvert qu'il existait des très grosses communautés aussi en ligne qui partagent des informations sur l'accouchement physiologique, des femmes qui sentent entraide avec une sororité très très forte. Toutes ces informations, bah, en fait, elles permettent aux femmes de faire des choix éclairés sur la façon dont elles veulent vivre leur grossesse et leur accouchement.
alors qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes étaient encore très passives et subissaient les choix du corps médical sans pouvoir protester. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut absolument faire un accouchement physio. Hein. Je pense que
ça devient une injonction non plus.
Non, voilà, faut pas tomber dans l'extrême inverse. Mais je pense qu'il y a plein de femmes à qui ça pourrait convenir, qui ont carrément les ressources pour gérer ça, en fait. Mais le problème, c'est qu'elles le savent même pas forcément, en fait. Ouais. Et je pense que c'est horrible, en fait, de pas avoir le choix. Parce que si t'as vraiment le choix, ok, tu peux te dire, moi, je préfère la péridurale, etc. Parce que j'ai bien étudié la question, et voilà. Mais si tu sais même pas que ça existe, c'est chaud, quoi. Du coup, vous pouvez retrouver le film d'Ariane sur Vimeo, ça s'appelle Enchantement. Je mettrai les liens, vous pouvez aussi la suivre sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à échanger avec elle parce que elle est toujours curieuse d'échanger, d'avoir des retours d'autres femmes en fait et de partager autour de ce sujet, donc de l'accouchement et voilà.
Merci Elsa.
Merci.
Moi je voulais enchaîner avec un petit point conseil à toi l'homme. Que faire si ta meuf accouche ? Donc ça s'adresse à l'autre parent, que ce soit le papa ou la deuxième maman. Mais peut-être un peu plus quand même particulièrement aux hommes parce qu'ils ont du mal à être dans des situations où ils se sentent impuissants, c'est pas trop dans leur habitude parce qu'on leur a toujours appris à être le chevalier servant.
Chaton.
Voilà, donc déjà le premier conseil c'est déjà que tu te mettes bien dans la tête qu'en fait c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui accouche et qu'en fait tu peux pas y faire grand chose, ça se passe dans son corps, donc tu peux pas faire grand chose pour aider, donc plutôt que de t'agiter, de crier, de machin, en fait ce dont elle a besoin c'est d'une présence calme.
Voilà.
Donc déjà premier point. Également aujourd'hui c'est devenu un peu habituel et même on se pose plus la question, les hommes sont en salle d'accouchement. Faut savoir que c'est très récent en fait. Avant les accouchements se passaient entre femmes, pendant que le monsieur était au café avec ses copains mort d'angoisse en attendant que ça se passe. C'est très récent en fait, ça date des années 70. Il n'y a pas d'obligation en fait à être là. Ouais. Je pense que c'est une chose dont vous pouvez discuter avec ta compagne, si elle en a envie, elle, que tu sois là, ou si toi tu n'as pas envie, c'est une discussion, et c'est pas parce que vous n'êtes pas tous les deux au moment de l'accouchement que vous n'êtes pas un couple uni et qui s'aime en fait. Enfin, faut peut-être des fois.
C'est pas automatique.
C'est pas automatique. Autre chose qu'on peut faire, alors une femme qui accouche notamment en milieu médical, en fait, elle est allongée, donc comme on l'a dit, sur sa table d'accouchement, avec tout un tas de soins qui parfois essaye de lui imposer des soins dont elle ne veut pas, qu'elle n'a pas demandé. Du coup, ce qu'il faut faire déjà, c'est savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut pour son accouchement. Est-ce qu'elle veut une péridurale ou pas ? Comment elle va accoucher ? Et à partir du moment où on sait ce qu'elle veut, la chose à faire, c'est de défendre ses choix. En fait, ses choix, elle les a faits, elle est enceinte, elle a eu le temps d'y penser, elle a eu le temps de se renseigner, donc elle sait bien ce qu'elle veut. Donc vraiment lui faire confiance sur la façon dont ça se passe, et si jamais elle change d'avis en cours d'accouchement, elle saura le dire aussi. Donc c'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est appuyer ses choix, notamment face aux soignants, qui parfois peuvent avoir la tentation un petit peu comme ça de manipuler le parent qui est là en me disant quand même il faut lui dire d'être raisonnable, elle voudrait pas une petite péridurale là, parce que là elle est en train de crier très très fort, hein, elle va pas y arriver, hein. Dites-lui qu'elle va pas y arriver. Donc vraiment défendre ses choix. Et également autre chose à faire, c'est la défendre évidemment contre les violences obstétricales. Si vous constatez un geste qui vous paraît bizarre, si on vous donne pas toute l'information dont elle a besoin pour pouvoir prendre une décision sur une épisiotomie ou sur n'importe quoi, demandez avec elle, appuyez ses demandes pour plus d'informations. Et s'il faut dire non, si vous sentez que là, il faut dire non et qu'il faut dire un stop pour pas que l'acte médical se passe, c'est votre rôle aussi de dire non calmement et fermement. Et vous avez le droit aussi, un accouchement, des fois, c'est pas un spectacle. S'il y a trop de monde dans la salle, si vous estimez qu'il y a le stagiaire, le machin, le truc, le bidule, ils sont tous là pour faire leur cours et que vous n'en avez pas envie, que c'est un moment que vous voulez vivre intimement, vous avez le droit de dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir ? On a envie d'être tranquille.
Bien sûr.
Donc c'est à vous de le faire parce que votre compagne, en fait.
Elle a autre chose à faire.
Elle est légèrement occupée, les jambes écartées, la chatte à shooter aux hormones, donc ça va être difficile pour elle, en plus d'avoir l'énergie d'imposer ses choix. Donc voilà, soutenez-la pour qu'elle puisse avoir l'accouchement qu'elle désire.
Oui.
Ouais.
Trop
Soyez
tard.
À notre service.
Pour une fois.
Ok,
on
et
passe
ben.
À la rubrique
self-care. Self-care.
Ben aujourd'hui, on va parler d'un sujet super sexy, le postpartum. Je ne sais pas si vous connaissez.
J'ai trop hâte.
Donc le postpartum, c'est ce qu'on appelle aussi le quatrième trimestre de la grossesse, c'est-à-dire les 3 mois qui suivent l'accouchement. C'est une phase qui est très très intense pour la maman. Son corps est en train de faire un peu une dégestation après la gestation. Donc son corps est en train de sortir de l'état de grossesse. Ses organes sont en train de se replacer. Et pendant cette période, en fait, on répond à beaucoup d'injonctions de la société. On a tous nos proches qui veulent venir voir le bébé. En plus, il y a la fin du congé maternité au bout de 2 mois et demi. Et voilà, on nous met aussi beaucoup la pression. Enfin, je dis nous, j'ai pas d'enfant, mais voilà, on met beaucoup la pression aux femmes qui viennent d'accoucher sur comment on fait dormir son bébé, comment tu le fais, est-ce que tu l'allaites ou pas, encore une fois, est-ce que tu vas vite retrouver ton corps, est-ce que tu vas sortir en boîte la semaine prochaine et reprendre une vie sociale. Il peut y avoir tout un tas comme ça de pression de la famille, et tout ça, c'est extrêmement contradictoire avec les besoins de la mère qui sont d'être allongée, notamment pour que le bassin et les organes reprennent leur place, pour pouvoir connecter avec son bébé, se reposer surtout énormément. En plus de ça, on a le papa qui prend souvent 10 jours maximum de congé paternité. Du coup, la femme se retrouve dans un énorme isolement du jour au lendemain. 10 jours après un accouchement, c'est très 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 peu de temps. En plus, il y a les hormones de la grossesse qui redescendent, ce qui fait que les femmes sont très fragiles émotionnellement. Je sais que c'est pas super funky, mais vous allez voir après.
Je vais te faire pleurer à tout moment.
Bon, bref, donc voilà, donc ça fait beaucoup. Le postpartum, c'est intense. Du coup, le conseil self-care, c'est soignez-vous, osez être une reine, prendre soin de vous, dire ce que vous voulez. Ne vous sentez pas gêné de, par exemple, dire non à un proche parce que vous savez que lui, de toute façon, il va jamais rien faire à la maison, il va pas vous aider, il va juste être un boulet. Vous avez pas l'énergie pour recevoir cette personne-là, vous pouvez dire non. Par ailleurs, vous avez sûrement besoin d'être entouré et chouchouté. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que dans pas mal de sociétés traditionnelles, la mère reste allongée pendant 40 jours après l'accouchement, et que en fait c'est les femmes de la communauté qui prennent en charge tout le reste, donc notamment faire à manger, nettoyer la maison, le linge, enfin tous ces trucs en fait qui sont très logistiques et qui prennent beaucoup d'énergie alors qu'on n'a pas du tout l'énergie pour ça. La femme devrait s'occuper surtout d'elle et de son bébé, quoi. Donc le conseil, ça pourrait être déjà de préparer ce moment à l'avance. Vous connaissez, je pense que vous pouvez un peu anticiper aussi quel genre de besoin vous allez avoir. Vous pouvez préparer le fait que vos proches soient au courant justement des choix que vous avez fait pour cette période-là et disponibles pour vous aider. Ne sous-estimez pas aussi l'aide et l'entourage dont vous allez avoir besoin, même si on est dans une société où tout le monde est occupé, tout le monde travaille, etc. Mais quand même, vous pouvez essayer d'organiser un roulement, par exemple, où une personne vient vous voir et vous faire à manger le lundi, une autre le mardi, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent passer toute la journée avec vous, mais préparer un peu juste l'aide et le fait que vos copines ou autres, les personnes qui sont proches, en qui vous avez confiance, seront là, quoi. Et surtout, quand les gens passent vous voir pour voir le bébé, etc., demandez-leur de vous aider, quoi, qu'ils vous apportent à manger, qu'ils vous fassent la vaisselle, qu'ils vous aident à laver votre linge, etc. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à refuser des visites si vous vous sentez trop fatigué ou quoi. Enfin, il n'y a pas de politesse à avoir dans un moment pareil. Je veux dire, vous êtes épuisé et c'est normal. Donc vraiment, prenez soin de vous au maximum et ne vous excusez pas de ne pas être la meilleure hôtesse de maison, parce que c'est pas du tout le sujet, en fait. Là, vous n'avez pas à faire ça, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, je vois pas bien comment tu fais quand tu viens d'accoucher, que t'as un bébé qui fait caca et qui vomit et qui dort pas et qui crie. Comment tu fais, en fait, pour préparer les petits fours et puis, être super bien coiffée, super maquillée, c'est pas possible.
Non,
quoi.
Ça va pas être possible. Non.
Donc, vaut mieux, effectivement, accueillir les gens, des gens que tu aimes, dont tu aimes t'entourer et qui sauront t'as pas pris de douche depuis 3 jours, mais bon.
Voilà. C'est ça, qui peuvent te garder ton bébé pendant que tu vas te laver ou des trucs comme ça, ouais.
Ouais, ça m'est arrivé de le faire pour une copine qui était en galère, en mode, je te le garde le temps que tu prennes une douche si tu veux, quoi. Et en mode, ah ouais, tu ferais ça? On n'ose pas se demander, en fait, je pense.
Non, mais il y a un gros problème quand même dans le lien social dans nos sociétés. Je veux dire, c'est quand même incroyable que les gens n'osent pas demander un truc aussi basique que ça. Enfin, si on a des amis, c'est quand même pour ça, quoi. C'est qu'ils puissent nous aider quand on a un problème.
Qu'on est conditionné dans nos têtes, c'est qu'il faut qu'on soit capable et qu'on ne demande pas, parce que sinon, on est une moitié de mère, ouais. Ou pas une vraie, ouais. Une vraie bonne mère.
Et il faut qu'on assume le choix qu'on a fait d'avoir un enfant.
Et demander de l'aide quelque part, nous, on le perçoit comme un aveu de faiblesse, en fait.
Une faiblesse, ouais.
Bon, voilà, je crois que la conclusion de cet épisode, c'est que, une, il faut qu'on soit bien informé sur tout ce qui existe,
ouais,
pour pouvoir faire des choix éclairés, et que, deux, on se fasse confiance.
Mmh. Exactement.
Qu'on croit en nous. C'est un peu le thème de tous les épisodes, oui, finalement. C'est la conclusion de tous les épisodes. Du coup, c'est déjà la fin de ce 8e épisode. On espère que ça vous a plu. On remercie 1000 fois nos warriors pour leur témoignage. Donc, merci à Ariane, Stéphanie, Louise, Émilie, Caroline, Laure et Odile. Bravo à vous et merci pour votre courage et votre détermination. Si vous voulez témoigner dans Yes, sachez qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux. N'hésitez donc pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, @YesPodcast. Avec
3S.
Pour le prochain épisode, on a fait un sondage sur Twitter et Instagram pour savoir quel thème vous préfériez qu'on traite. Entre sexisme en soirée et sexisme en politique, c'était très serré, donc de toute façon, promis, on fera les deux. On a fini par trancher pour l'épisode 9, il s'agira de Victoire sur le sexisme en politique et dans le monde militant. C'est un sujet plus que jamais d'actualité, on a hâte d'en parler avec vous.
Ouais, ça va être trop bien.
On remercie la Podcast Factory, notre réalisatrice Amida et Irving à la prise de son. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On vous dit à la prochaine fois, mais toi, d'ici là, n'oublie pas, tu es capable du meilleur, tu connais ton corps mieux que personne, tu es une reine, une magicienne, une sorcière, tu es puissante, bref meuf, t'es une warrior.
Yeah!